Nous sommes des jeunes gens confinés, ensemble dans le Finistère, pas toujours lucides sur notre rapport à la maladie, à la mort, et cela vient nous remuer. Comment se placer par rapport à ce confinement? Les paroles des soignantes et soignants parmi nos proches nous ramènent un peu les pieds sur terre. Le virus est là, au milieu de leur vie et de leurs actes, mais il n'est pas séparable du reste. Leur vie, en fait, nous les connaissons déjà un peu. À dire vrai, nous avons même grandi avec. Quand ils rentraient à la maison, après la journée de boulot, et qu'ils nous en délivraient une partie. Alors que par moments, dans ce confinement, nous tournions un peu en rond, à nous demander que faire, nous avons décidé de mettre ça sur l'établi. Les nouvelles régulières d'un parent nous donnent une idée, faire sortir quelques bribes d'un monde que l'on oublie, bien caché derrière les murs. Un monde dont on parle beaucoup en ce moment, sans vraiment vouloir savoir ce qu'il s'y passe. C'est le point de départ de cette émission, en deux volets. Dans ce deuxième volet, on écoutera un infirmier à domicile qui a débarqué sur l'île de Bas après avoir quitté son poste dans un EHPAD. Ensuite, nous suivrons le récit d'une infirmière de l'Ouest partie prêter main forte au sein d'une clinique en Seine-Saint-Denis, où la plupart des patients et soignants sont tombés malades du Covid. Se mêle à ce dernier récit la parole d'une autre infirmière du sud de la France qui nous fait part de sa colère quant au déclin des hôpitaux.
Un jour, j'ai trouvé ce poste-là qui était à pourvoir à la ville de Brest, d'infirmier coordinateur. Et donc, je suis arrivé là sans formation. Ça, c'était vraiment le handicap, effectivement, parce que la coordination, c'est aussi, à la limite, entre guillemets, gérer une équipe d'aides-soignants. C'était plein de choses. C'était faire la liaison entre les familles et les résidents. La liaison avec les médecins généralistes qui venaient soigner les personnes âgées. Et c'était aussi faire la liaison avec un centre de santé qui intervenait pour distribuer, préparer les semainiers, c'est-à-dire ils préparaient des boîtes de médicaments pour 7 jours et ils venaient distribuer les médicaments le matin et midi, faire les soins. Et le soir, c'est les aides-soignants qui distribuaient ces médicaments. C'était aussi faire la liaison avec les nombreux cabinets infirmiers libéraux qui intervenaient chez les gens qui n'étaient pas inscrits à la cure médicale. Après, il y avait toutes les professions paramédicales, les kinés. Après, il fallait aussi se préoccuper de la gestion de tout le matériel, fixer tous les rendez-vous avec tous ces intervenants, la pharmacie et le laboratoire. Après, il fallait aussi se préoccuper de l'équipe d'aides-soignants. Donc, je me suis installé petit à petit dans ce travail qui n'était pas trop facile parce que les aides-soignants, c'est un métier qui est très, très pénible et très répétitif dans ce type d'établissement parce que c'est un éternel recommencement, quoi. Dès le réveil, on lave les malades, on les prépare, on les descend dans des fauteuils roulants. Après, il faut encore les remonter, les remettre au lit pour la sieste et ainsi de suite toute la journée. Et le lendemain, c'est encore la même chose. Et donc, on avait affaire quand même à une équipe qui était assez fatiguée et parfois plaintive de par le poids du travail et aussi les relations qui n'étaient pas très bonnes avec la direction de l'établissement. Et aussi la problématique de tous ces soignants intérimaires qui faisaient marcher l'établissement, quoi. Quand on avait besoin d'eux, on les appelait. Quand on n'avait plus besoin d'eux, on les laissait tomber. quelques années après, il y a eu quand même un plan de la ville de Brest pour embaucher des aides-soignants titulaires. Ils ont donc organisé des entretiens. Et là, j'ai commencé à me rendre compte que ça n'allait pas parce que la plupart des vacataires qui avaient fait tourner l'établissement pendant 3-4 ans ont été laissés sur le carreau parce qu'essentiellement, ils ne répondaient pas aux critères de l'entretien alors qu'on avait eu besoin d'eux pendant des années et on les a laissés tomber lamentablement. Mes relations avec la directrice étaient aussi de plus en plus tendues. Mon boulot de coordination petit à petit s'est transformé en un boulot d'infirmier habituel dans ce type d'établissement, c'est-à-dire que par manque de crédit ou pour faire des économies, on a arrêté la collaboration avec le centre de soins qui préparait les médicaments et qui assurait les soins infirmiers. Donc du jour au lendemain, je me suis retrouvé à préparer ces fameux semainiers et à distribuer les médicaments matin et soir. J'ai dû abandonner un atelier que j'avais mis en place de causerie en breton avec les personnes âgées. À la maison, on commençait à trouver que c'était pesant parce que je revenais un peu claqué, un peu submergé par ce travail. Mais bon, j'y croyais toujours sans doute parce que j'écoutais pas trop et je restais. J'ai quand même, en 2005, tenté une autre reconversion en me disant que il y avait un appel, enfin il y avait des emplois à créer sur une compagnie de navigation qui s'appelle la Brittany Ferries. Je me suis dit, tiens, pourquoi pas partir travailler sur un ferry. Donc j'ai pris une disponibilité de 7 mois. Je suis revenu en fin de contrat dans l'établissement avec toujours des évolutions qui se faisaient et entre autres l'arrivée d'un directeur du plan gérontologique avait beaucoup transformé la donne et ça m'a fait partir très rapidement. En un mois, je crois que j'avais plié bagage parce que ce monsieur qui avait d'abord travaillé je ne sais trop où, peut-être dans l'industrie ou... Et tout avait quand même fait transiter par un établissement dans du côté de Briec, je crois, et était arrivé à la ville de Brest et il m'avait convoqué un entretien. Il m'avait dit moi, je ne connaissais rien aux personnes âgées, mais je suis devenu un expert en personnes âgées. Et il avait été embauché par la ville de Brest pour définir le plan gérontologique suivant. Ça devait être des plans, je ne sais pas, quinquennaux peut-être, pour décider de l'orientation de la ville de Brest par rapport aux personnes âgées et sans doute réfléchir à l'ouverture des EHPAD qui allaient se créer. Donc ce monsieur qui était devenu expert en gérontologie, j'avais pris rendez-vous avec lui pour lui dire que je n'étais pas du tout en accord avec sa manière de faire parce qu'il voulait que du jour au lendemain j'aille dans deux autres établissements qui n'avaient pas d'infirmier coordinateur préparer les médicaments. Et je me heurtais un peu aux aides-soignantes qui avaient eu ce rôle pendant des années. Et j'avais l'impression de leur piquer leur travail. Donc j'ai pris rendez-vous avec lui. Entre-temps, je m'étais déplacé sur l'île de Bas où on cherchait un infirmier à domicile. Et je m'étais déplacé pour lui dire au bureau dans son beau bureau de directeur que j'allais m'en aller.
Pigea du vent aîné, pavés et grâces douées, à gainé garanté.
Par contre, en EHPAD, moi je trouve que... Bon, c'est vrai qu'on a affaire à une population de personnes âgées. On a affaire à une population où il y a un pourcentage élevé de gens qui sont perdus, qui sont... dément. On a affaire à des gens qui, de toute façon, la moyenne de vie en EHPAD, on dit qu'elle est de, je sais pas moi, 3-4 ans, peut-être maximum. Donc est-ce qu'on a le droit de laisser ces personnes seules dans une chambre? De toute façon, ça ne va pas améliorer la démence, au contraire, quoi. Une personne qui a besoin d'être ne serait-ce que touchée ou souvent le contact à la fin, c'est toujours délicat de... On dit qu'il y a des établissements où il y a eu beaucoup de morts, donc c'est vrai que nous on est aussi dans une région qui n'est pas très impactée, on a eu de contacts, enfin dans notre coin à nous, de vie quoi. Moi, je me pose des questions quand je vois les personnels qui restent 24 heures sur 24 à l'EHPAD, avec les vivre la nuit, au détriment de leur famille. Je trouve que c'est trop, quoi. On n'a pas, je sais pas si c'est de l'imposer, quelque chose d'imposé pour le soignant ou quelque chose de choisi. Je sais pas s'il y a eu beaucoup d'EHPAD à le faire. Je crois qu'il y en avait un du côté des Charentes-Maritimes et il y en avait un autre dans, je sais pas, c'est pas le Sud-Finistère ou le Morbihan, qui ont adopté cette manière de faire, mais là je crois que non, quoi. Mais après, c'est vrai que dans ces EHPAD de canton, on a affaire aussi à des gens qui habitent sur place, qui sont, on dit entre guillemets, contents de travailler là et qui sont une population quand même de salariés qu'on manage facilement, quoi, hein. Et donc, c'est des gens qui sont dévoués à la cause, quoi, à fond, quoi.
Le port de Saigon, il est une
Mon
jonque
château chinoise,
chinoise, mystérieuse
mystérieuse
et
et sournoise,
sournoise, dont
dont
on
on
ne
ne connaît
connaît
pas
pas
le
le
nom.
nom. Et le soir dans l'entrepont, quand la
Comme
nuit se
se fait
fait complice,
complice,
les Européens s'y glissent,
glissent,
cherchant les
au
coussins
sein
profonds.
profond,
Opium,
opium,
parfum de rêve,
rêve,
fumée
fumée
qui
qui
monte
monte
au
au
ciel.
ciel.
C'est
C'est
toi
toi
qui
qui
nous
nous
élèves
élèves
au
au
paradis
paradis
artificiel.
artificiel.
Je
Je
vois
vois
le
le
doux
doux
visage,
visage,
les
les
yeux
yeux
de
de
mon
mon
aimé.
aimé.
Par toi,
Parfois,
j'ai
j'ai
son
son
image
image
dans
dans
un
un
nuage
nuage
de
de
fumée.
fumée. Soin, soin,
Olé!
olé.
Sur l'île de Bas, c'est vrai, nous on a le statut de travailleur indépendant, donc on est infirmiers libéraux. Je dis que c'est vrai que c'est confortable parce que à l'heure actuelle, nous avons une équipe de 4. Moi, j'ai l'impression de vivre quand même une expérience originale et très très riche, à mesure que l'île, c'est un petit pays, hein, l'île, c'est un pays de peut-être 350 habitants l'hiver. L'été, bon, c'est beaucoup plus, mais on fait au maximum pour garder les personnes âgées chez elles tant que c'est possible, parce qu'on sait, enfin, du moins les personnes savent que le jour où elles partent sur le continent dans un EHPAD, c'est le dernier voyage, quoi. On reviendra plus vivant. Je dis aussi que l'île a beaucoup de chance d'avoir un médecin en permanence, hein, ça c'est clair, alors que des communes qui n'en ont pas du tout. Et c'est vrai qu'on est beaucoup aidé par le maire et par les autorités, hein, sanitaires, hein, pour développer cette activité. On vit quelque chose, nous, un peu d'extraordinaire, quoi, parce y a des moyens, il y a la solidarité entre les gens. Quand on pense à même les monts d'Arrée, où l'habitat est dispersé, souvent les gens, et ça je l'avais remarqué quand je suis arrivé ici dans les monts d'Arrée, dans les années 80, on soignait, on prenait en charge des gens, mais il y avait toujours quelqu'un pour leur permettre de rester à domicile, souvent la belle-fille qui nous aidait dans les soins. Bon, il y aurait beaucoup de moyens à mettre en œuvre. De toute façon, le maintien à domicile n'est pas possible s'il n'y a pas de famille proche ou de voisins ou de solidarité, parce que il est vrai que le passage d'une aide à domicile, en général c'est une fois par jour ou matin et soir, c'est vrai que c'est limité, hein. Après, si un passage d'infirmier, encore une demi-heure ou 1 heure par jour, ça fait qu'on reste quand même 22 heures dans la journée seul. Voilà un peu l'avenir, hein. C'est vrai que il y a des fois, nous aussi, on pense à notre avenir quand on voit la population qui diminue. Moi, je crois que je vais entamer ma 14e année et je pense que je peux déjà compter 220 décès, donc c'est énorme, quoi. Et on a travaillé pendant 2 bonnes années avec l'ARS qui essayait d'organiser la santé sur les îles du Ponant. Et on a beaucoup bataillé avec eux pour dire qu'à un moment, effectivement, allait se poser le problème de la présence des soignants. Si les soins et si l'activité ne demeure pas rentable, il est était difficile d'entrevoir qu'on reste là, attendre le client ou le patient pour. Et donc, on a réussi quand même à obtenir une indemnité de permanence qui servira le jour où l'activité n'est plus rentable et permettra aux collègues de rester plus facilement sur l'île pour assurer le maintien de la santé. Je pense qu'il y a un manque de moyens au niveau de l'aide à domicile. De toute façon, il faudrait mettre plus de paquets pour augmenter les passages, l'intervention des aidants, mais aussi du manque de personnel localement. Sur l'île de Bas, à l'heure actuelle, il n'y a qu'une aide à domicile au sein de l'ADMR. Il y a quelques personnes qui marchent en chèque emploi service. Tout cela parce qu'il y a aussi une grosse aberration dans l'organisation des services de l'ADMR. Parce que c'était comme au foyer logement du temps où j'étais. On marche beaucoup avec des vacataires mal payés. Et quand on n'a plus besoin d'eux, on les laisse tomber, lamentablement. Ce qui fait que les Iliens en ont eu marre de se laisser tomber par l'ADMR et qu'ils préfèrent ne plus répondre aux offres d'emploi de cet organisme. Donc, le maintien à domicile mériterait effectivement plus d'apport financier de la collectivité ou de l'État, quoi. Mais ça sont des choix politiques à faire et que pour le moment le politique ne fait pas, quoi. Visiblement, je pense que l'île elle est vraiment confinée dans la mesure où il n'y a plus d'échanges de bateaux depuis bientôt 5 semaines avec le continent. Les bateaux ne se déplacent que le matin pour aller chercher les médicaments que la pharmacie a préparés, aller chercher les journaux. Et c'est par ce bateau du matin que nous, on arrive à prendre la relève du collègue ou de la collègue. Et ils opèrent un bateau l'après-midi pour le retour de l'infirmier sur le continent. Sinon, les gens me semblent bien respectés. Ouais, ils n'ont pas l'air de trouver ça trop pesant. Bon, après, c'est vrai qu'il n'y a pas de présence policière non plus quotidienne. Donc, c'est peut-être plus libre que sur le continent, quoi. Mais bon, il y a quand même il y a 2 jours, il y avait 3 gendarmes à vélo qui sont restés tout l'après-midi. Mais après, bon, c'est vrai, comme sur une île, il y a toujours un téléphone qui sonne dès l'arrivée des. Donc tout le monde sait très vite, connaît la nouvelle assez vite, hein, que ce soit par le téléphone ou Facebook. Donc les gens peuvent après respecter un peu plus le confinement. Par moments, si, il y en a quand même qui ont trouvé un peu difficile ce confinement parce qu'ils avaient été hospitalisés, donc on leur a imposé un peu plus de règles en leur imposant vraiment, eux, une quarantaine, entre guillemets, chez eux, quoi, pendant quelques jours. J'ai le cas d'une dame là, qui a 92 ans, elle vit seule, elle était très tonique, elle était pimpante, depuis ce confinement, elle ne reçoit plus la visite de son fils unique qui habite au Roscoff. Il le venait une fois par semaine et on la voit décliner petit à petit. Elle commence à vraiment aller mal. Elle s'alimente beaucoup moins bien. C'est ça aussi les signes, hein, quand les personnes ne vont pas bien, c'est que c'est toujours le frigo qui est vide ou qu'on ne vide pas et qu'on ne cuisine plus. Et donc cette personne s'est mobilisée quand même auprès de la famille pour dire il faut absolument qu'elle s'en aille sur le continent. Et après plusieurs tractations, on est arrivé à ce qu'elle parte lundi matin au bateau de 9h. Hier, quand je suis rentré, il y avait une dame sur le bateau avec moi qui était venue voir son père qui est bien malade. Mais ça lui avait demandé 4 semaines de formalité pour avoir l'accord pour venir. Donc ça voulait dire qu'il a fallu, je pense que c'est les services de la sous-préfecture qui interviennent, dès qu'il y a un besoin de venir sur l'île, Il faut que le maire se mette en rapport avec la sous-préfecture. Et cette dame me disait qu'elle a donc elle a galéré, enfin entre guillemets, pendant quelques semaines pour préparer le dossier. C'est-à-dire qu'elle a fallu avoir les autorisations. Au final, il a fallu qu'elle se fasse tester, qu'elle teste sa famille. Et au vu des résultats, elle a pu venir arriver le matin à 9h, départ 4h30. Interdiction de rester dormir. Donner un mois de tractation pour obtenir une demi-journée de visite à ton père. Et tu te dis, mais on marche sur la tête, quoi. Qu'est-ce que ça veut dire, quoi. Même face à cette épidémie, on a pas grand-chose. Hein. On a quelques masques, une dotation hebdomadaire qui vient de l'État et qui transite par la pharmacie de Roscoff. Ce sont des masques chirurgicaux. Je crois que les FFP2 commencent à arriver, mais avec parcimonie. Nous, on a ressorti nos vieilles blouses d'étudiants ou de salariés, qui sont un peu, pour beaucoup d'entre elles, trop petites, donc on a du mal à rentrer dedans. On a fabriqué quelques casaques avec des vieux draps. Et voilà, c'est tout. Je sens comme certains sont très, très anxieux. Je vais chez une patiente qui décontamine tout, hein, jusqu'au paquet de gâteaux qu'elle nous laisse sur la table pour accompagner le café du matin. Bon, elle fait ça avec du vinaigre. Il y en a qui ont une très grande frayeur, donc ils vont adopter les mesures de confinement, ils vont faire en sorte de ne pas sortir de chez eux, même l'heure qui leur est dédiée là, par jour, ils ne l'utilisent pas. Il y a une dame qui me dit, ouais, il y a un gars là, il vient me voir, comme avant, il vient me voir, mais il n'a rien compris au confinement, quoi. Je n'ose pas lui dire de ne pas venir, mais il vient en faisant sa balade.
Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio los luceros. Que cuando los abro, perfecto distingo lo negro del blanco, y en el alto cielo su fondo es delgado. En las multitudes el hombre que yo amo. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el oído que en todo su ancho graba noche y día, grillos y canarios.
Dans le transfert des malades par train là, et tout ça, ça c'est des programmes qui ont été pensés après les attentats là, qu'il y a eu à Paris, et ils ont imaginé de déplacer les malades en province. Mais quand on voit le nombre de personnel que ça mobilise pour transférer 7-8 patients de réa en réa ailleurs, je pense qu'il aurait peut-être mieux valu de trouver et bon nombre de structures sont vides partout en France, hein, que ce soit des casernes, des couvents et qui restent vides. Et ça, c'est aussi un grand scandale, quoi. On aurait peut-être mieux fait d'ouvrir localement dans l'Est des unités qui auraient nécessité moins de moyens humains et financiers pour transférer des gens à des réas loin de chez eux qui, quand il se réveille, il doit se dire « Mais putain, mais où je me trouve ?» Et je voyais même dans le journal l'autre jour qu'au niveau de Brest, ils ont dû aller au secours populaire, prendre des habits, parce que les gens sont arrivés à poil, en chemise ouverte, et pour repartir chez eux, ils n'avaient rien à se mettre sur le dos, quoi. C'est fou, hein, parce que... Et là aussi, quand on voit que en réanimation, c'est comme un peu le toucher chez la personne démente. En réanimation, moi j'ai une copine qui a été... surveillante de réanimation et elle a toujours fait, tous les matins, elle allait serrer la main des patients qui étaient intubés sous respirateur, qui censément n'étaient pas conscientes, mais elle croyait au fait que la parole et le toucher sont vraiment importants dans voilà quoi. Donc tous ces gens-là qui se retrouvent après loin de chez eux, et on peut aussi imaginer l'inquiétude des familles qui ont leurs parents à 800 km de chez eux. On peut pas même, j'imagine qu'on peut pas trop communiquer parce que les soignants n'ont pas trop le temps de prendre les téléphones. Et je crois que je lisais un truc l'autre jour d'un philosophe qui disait que peut-être la gestion de la crise, elle est trop donnée maintenant au corps médical, quoi. On ne consulte pas assez peut-être d'autres pouvoirs décisionnels, quoi. Ça repose sur le côté médical de l'épidémie, alors qu'il y a d'autres côtés qui vont avec, quoi. Il y a le côté, ben, voilà, l'humain, l'économique, le prévisionnel. On pouvait aussi faire beaucoup mieux et prévoir la crise en dotant à minima quand même les personnels à risque du minimum, c'est-à-dire au moins un masque, et qu'on soit arrivé à des pénuries comme ça. Je trouve que c'est un gros scandale d'État, quoi. Moi, je pense qu'il faudra qu'ils rendent des comptes. On a fait, je sais pas, c'est pas 1000 respirateurs qui vont servir à rien, parce que je crois qu'il y a une grosse société qui s'appelle l'Air Liquide qui gère l'oxygène médical. Ils ont fabriqué des respirateurs qui ne vont même pas servir parce qu'ils sont pas bien conçus, quoi. J'espère que les gens vont pas rester aux applaudissements de 20 heures, quoi. J'espère que après il y aura quand même une considération pour tous ces personnels qui depuis des années clament haut et fort que tout va mal à l'hôpital, et ces derniers mois il y avait quand même pas mal de gens en grève. Ça n'intéressait personne là-haut, quoi. Bah là, ça va peut-être toucher un peu plus les gens. Parce que ça les touche personnellement. Le virus fait peur à certains plus qu'à d'autres. Donc, ils vont se rendre compte du fait que tout ça, c'est lié. Hein. C'est un problème de société mondiale, de choix. Mais bon, il ne faut pas que ça s'oublie très vite, que l'histoire s'oublie trop vite. Et que les gens se mobilisent. Si tout que ce sera possible pour réclamer un autre système de développement,
perfecto distingo lo negro del blanco y en el alto cielo su fondo es teriado en las multitudes el hombre que yo amo. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el oído que en todo su ancho graba noche y día, grillos y canarios, martillos, turbina, ladrido, chubasco y la voz tan tierna de mi bien amado. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio dos luceros que cuando los abro perfecto distingo lo negro del blanco y en el alto cielo su fondo es teriado en las multitudes el hombre que yo amo. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el oído que en todo su ancho graba noche y día, grillos y canarios, martillos, turbina, ladrido, chubasco y la voz tan tierna de mi bien amado. gracias a la vida que me ha dado tanto.